Paul, salut.
George, salut.
John, salut.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h-20h.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Vraiment, il y a un mec surfait, c'est bien Mozart. Quoi.
Mozart. Beethoven, c'est pas autre chose, moi, je suis désolé.
Ouais, nous sommes avec Yves Bigot, Marc Lambron et Josiane Savigno pour vous parler des Beatles, musique qui est devenue classique dans le monde entier. Nous sommes ravis de consacrer donc cette émission d'une certaine manière au rock'n'roll, car vous savez que les quatre Beatles au départ, c'était un peu des prolos de Liverpool qui avaient pour obsession, en tout cas pour amour, Little Richard ou Elvis Presley. Que s'est-il passé donc en 64 quand sort Can't Buy Me Love? Et je salue évidemment Yves, Marc et Josiane. Eh bien, les Beatles sont à Paris. Et pourquoi j'ai commencé par cette chanson? C'est tout simplement parce que c'est la seule chanson qu'ils aient d'abord enregistrée dans la première version en France, dans un studio qu'ils considéraient comme totalement sinistre, le studio Pathé Marconi à Boulogne, le 29 janvier 1964. C'est Paul qui a conçu cette mélodie. Il était dans l'hôtel George V, dans leur chambre, car ils se produisaient en France. C'est unique dans leur histoire. Can't Buy Me Love.
Can't Buy Me Love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.
Voilà, si vous voulez avoir une idée, évidemment, de la vie des Beatles à cette époque, le 25 février, ils sont de retour à Abbey Road après une tournée aux États-Unis. Leur vie est absolument trépidante et ils vont finaliser donc à Abbey Road l'enregistrement de Can't Buy Me Love. J'aurais quand même vous donner deux ou trois chiffres. Dans le Billboard du 11 avril 64, pas moins de 14 chansons des Beatles sont classées dans le Hot 100, un record jamais égalé. Et, puisque nous allons beaucoup parler avec Yves et avec Marc de l'influence de George Martin, c'est lui qui a eu l'idée quand Paul a composé la chanson de George V, lui dit « Mais t'emmerde pas, commence par le refrain, comme ça, ça fera un tube. » George Martin, donc indispensable, justement, puisqu'il a apporté aux Beatles toute la culture classique du grand arrangeur qu'il est. Nous allons passer maintenant à I Need You. Can't Buy Me Love, c'était A Hard Day's Night, nous étions en 64. I Need You, c'est l'album Help, nous sommes en 1965, on se détend, et voici Marc Lambron.
You don't realize how much I need you. Love you all the time, I never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore.
John et Paul se sont rencontrés en 1957. John avait déjà un groupe. Paul est arrivé timidement, une sorte de fête Où il l'a retrouvé, il a fini par intégrer le groupe, bien que John fût déjà à l'époque relativement méfiant, car ce garçon était très très bon dans le domaine de la musique. 12 albums en 7 ans, 188 chansons originales et presque autant de classiques, des dizaines de tubes. Pourquoi avez-vous choisi, mon cher Marc? Bonjour.
Bonjour.
I Need You.
Eh bien, pour commencer par le Beatle éclipsé, The Quiet One, George le Tranquille. Cette chanson, ça n'est que la deuxième que les Lennon et McCartney lui conseillent. Il y en avait une sur le deuxième album qui s'intitulait Don't Bother Me. Et alors techniquement, on est en 65 dans le studio Abbey Road 2, le plus intime. Ça va aller sur l'album Help. C'est écrit une semaine avant le tournage du film et c'est un hommage à son amour du moment, qui est Patty Boyd, le mannequin qu'il va épouser et qui sera plus tard la Leila d'Eric Clapton. Alors, les composantes musicales, vous avez entendu, il y a une pédale d'expression. Ce qu'on appelle une pédale d'expression, c'est une sorte de vibration rémanente qui va beaucoup plaire à John Lennon, puisque dès le lendemain, il enregistre une chanson qui s'appelle Yes It Is, où il utilise aussi. Il y a un côté laboratoire avec George Martin dans la musique. Et il y a un beat, Ringo Starr, très, très Tamla, Motown. Et puis il y a cette chose, qui est le mystère Harrison, qui est une sorte de mélancolie un peu languissante, avec un son qui peut devenir très étouffé. Vous écoutez sur le double album blanc deux chansons, Long, Long, Long et Savoy Truffle, et c'est comme quelque chose de très nimbé, de très lointain. Alors, qu'est-ce que George va apporter graduellement aux Beatles? Bah d'abord, c'est l'Orient, parce que c'est lui qui, à travers Ravi Shankar, notamment son professeur de sitar, va introduire à partir de 66 des chansons Love You Too sur Revolver, Within You Without You sur Sgt. Pepper, une autre Blue Jay West sur Magical Mystery Tour, et puis une affirmation mélodique graduelle, ce qui fait que sur Abbey Road, l'album, deux des plus belles chansons, Something et Here Comes the Sun, sont signées Harrison. Mais c'est une affirmation frustrée, ce qui fait que tout ça va se déverser en 70 sur son premier album solo, qui est un triple album, All Things Must Pass, qui est absolument magnifique, produit par Phil Spector. Et qu'est-ce que va devenir ensuite Harrison? C'est un étrange mélange, parce que dans les années 70, c'est à la fois l'hindouisme, mais c'est la passion pour la Formule 1, c'est pas mal de cocaïne, c'est beaucoup de femmes, et c'est les Monty Python, dont il va être le financeur et le producteur.
Voilà les Monty Python qui, lors du concert, nous étions tous les deux à Londres, Yves Bigot, sont venus sur scène rendre hommage à Harrison avec toute l'aristocratie du rock anglais, emmené évidemment par Paul McCartney, Eric Clapton, tous ceux qui étaient là, Ringo Starr. Voici cette jeune fille en larmes parce qu'elle n'en a pas pu voir les Beatles à Londres, et elle est désespérée. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'était l'hystérie à l'époque.
What did the matter go with not like that? We came here at 6 o'clock in the morning, 5:30 to see them, and all they do is push your father and father away. And then they don't even let you see them.
You've been here since 6?
Yes.
Voilà pour ce son qui vous donne le sentiment de ce que pouvait être la Beatlemania. Et puis nous arrivons et nous progressons de Can't Buy Me Love, I Need You, A Day in the Life, qui passe pour la célèbre chanson, en tout cas la plus marquante peut-être de l'histoire du groupe. Car Marc a commencé, Yves va l'expliquer, A Day in the Life, c'est la complexité totale. D'abord, l'histoire est particulière, celle d'un héritier qui s'écrase avec sa voiture en sortant d'une boîte de nuit un beau matin. Et puis c'est surtout la façon dont on intègre la musique classique dans cette chanson que Yves va vous expliquer dans une toute petite seconde, A Day in the Life.
People turned away, but
but I just had to look. Having read the
Vous voyez qu'avec A Day in the Life, on est déjà très loin de Can't Buy Me Love sur le plan à la fois de la composition, du récit de la chanson et de la façon dont elle est orchestrée. Avec, par exemple, cet accord final, et ils peuvent tout vous expliquer, qui est un accord avec plusieurs pianos dans un studio martelé. Voilà, alors ça, je pense, les garçons, qu'on aurait pu faire pareil, hein, presque, pas la chanson, mais ça. Tous les trois avec Josiane et... donc, sur les notes les plus basses de 4 ou 5 pianos. Racontez-nous cette histoire qui est passionnante, parce que ça passe pour la plus grande chanson de l'histoire de la pop musique.
Alors, A Day in the Life, effectivement, c'est sans doute avec I'm the Walrus, le morceau le plus ambitieux des Beatles. Et comme ils le pratiquaient souvent, en fait, ce sont plusieurs débuts de chansons qu'ils ont mis ensemble. Là, on a entendu la partie John Lennon du début, dont vous rappeliez Guillaume, qu'il évoque l'accident de voiture et la mort de Tara Brown, qui était un de leurs amis, qui était l'héritier de la fortune Guinness, hein, donc quelqu'un qui était qui faisait partie donc de la haute société britannique, mais qui
faisait la fête,
voilà, sans canailler,
et qui avait des matins difficiles,
voilà, faisait la fête
très difficile ce matin là,
avec les Beatles. Ensuite, il y a la partie Paul McCartney, avec d'ailleurs une partie vocale et des sonorités, on entend un réveil, hein, qui est le réveil matin, hein. Mm-hmm. Et on part sur un tempo complètement différent, et puis cette montée finale, hein, orchestrale, et à la fin, voilà, cet accord qui résonne, hein, très très longtemps, hein, on en entend l'écho jusqu'au bout, qui est créé effectivement sur plusieurs pianos dont nous aurions pu effectivement tous les trois participer, parce que là c'est pas Nicky Hopkins, hein, c'est pas de la virtuosité qui est demandée, mais simplement ce que souhaitait
de l'ampleur et de la réverbération.
Voilà. Voilà, et donner le plus gros son, voilà. Et alors, c'était aussi la recherche de retrouver la vibration de homme, hein, qui donc dans la théologie des Védas, hein, et la résonance, c'est le verbe qui est à l'origine de la création du monde.
Est-ce qu'on peut dire j'ai une petite question pour tous les deux. On dit, alors j'ai des livres extraordinaires consacrés aux Beatles, il y en a beaucoup, celui de Frédéric Granier, qui a l'avantage de ne pas être un livre, disons, trop hagiographique, mais qui est très important et qui évidemment leur rend hommage. Et puis la totale, c'est les 211 chansons qui sont expliquées, alors je disais 198, ils en ont trouvé 211, où là, il y a un détail, des détails techniques qui sont absolument phénoménaux. Ma question est la suivante. On dit beaucoup que justement, comme Paul arrive dans un groupe qui existe déjà, qui est dirigé par John, au fond, les premières années sont des années de John, et après, petit à petit, parce qu'il faut essayer de comprendre comment tout ça a explosé aussi, petit à petit, Paul va s'imposer, même si au début, il a imposé des chansons comme Love Me Do, plus tard à peu près Yesterday. Est-ce que vous croyez à cette thèse? C'est-à-dire, en gros, 4 ans de John, le chef, et après 4 ans Paul.
C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce qui est fascinant d'ailleurs dans l'étude de la vie des groupes. Les Beatles, c'est une vraie démocratie, dans le sens où même Ringo, dès le premier album, chante une chanson. Ringo a une chanson, alors que c'est pas le plus grand vocaliste de la planète, a une chanson. Et sur scène, il y avait toujours le moment où Ringo, derrière sa batterie, chantait un morceau. Il y a toujours eu, même s'il était marginalisé par le talent faramineux et la production faramineuse de Lennon et McCartney, il y avait toujours aussi des chansons pour George Harrison, comme Marc l'a rappelé tout à l'heure. Donc, oui, vous avez raison, au début, c'est le groupe de John, c'est lui le leader, et en fait, si après la mort de leur manager, Brian Epstein, en 1967, Paul prend un peu le leadership, c'est d'abord parce que c'est dans sa nature. McCartney, c'est celui qui veut plaire, c'est celui qui veut réussir, et c'est celui qui veut faire. Mmh. Et ça correspond au moment où John Lennon est à moitié dépressif, où il commence à tâter de l'héroïne, et puis le moment aussi où il rencontre Yoko Ono, et où du coup, son duo, quasiment son couple avec Paul McCartney, va souffrir du fait que son couple va plutôt devenir John et Yoko que John et Paul.
Je voudrais qu'on écoute. Marc va donner son point de vue. George Martin qui raconte la genèse de Yesterday qu'on va entendre tout à l'heure. Car il y a évidemment avec l'influence de George Martin beaucoup de quatuor à cordes, beaucoup de Bach ou de Mozart. D'ailleurs, McCartney ne s'en est absolument jamais caché. Mais voici Martin lui-même qui le raconte. Et après, nous écouterons Marc.
In those days, à cette époque, 1965, c'est la toute première fois que j'ai écrit une partition pour les Beatles. Et cette partition était pour un quatuor à cordes. Et quand nous l'avons faite, Paul a écrit dessus. Par Paul McCartney, John Lennon, Sir George Martin et Mozart. C'était une référence au fait qu'il y avait une touche de musique classique.
Voilà, ce qui est très nouveau à l'époque, hein, parce que, par exemple, les Stones, à cette époque, c'est vraiment le blues rock, l'influence de la musique nord-américaine. Et là, on sent que tout d'un coup, ils partent vers quelque chose de totalement singulier.
Ils partent vers une musique, ce qui, à mon avis, les distingue des Stones, qui incorpore, en quelque sorte, sa future nostalgie. Alors que les Stones, c'est vraiment des mauvais garçons de la cour d'école. Sur votre question, moi, je n'entends pas, en termes de période ou d'ascendant, la musique des Beatles. Ce qui est vrai, c'est que très tôt, l'un arrivait avec une composition et qu'il la retravaillait ensemble. Ce qu'on a entendu ici, tout à l'heure, Day in the Life, c'est précisément le point d'équilibre où, entre Lennon et McCartney, y compris vocalement. Et il y a un aspect de collage qui est intéressant, ou de patchwork, y compris dans les mots. Parce que, par exemple, pour cette Day in the Life, Lennon lit dans la presse un article très banal qui dit « Dans la chaussée du Lancashire, il y a mille trous. La chaussée est défoncée, il y a des nids de poules. » Et ça devient, il parle de « Thousand holes in Blackburn, Lancashire ». Alors, c'est collage et message. Parce que je reste sur « The Day in the Life », il y a quand même une ligne de Lennon qui dit « I'd love to turn you on », qui est le slogan hippie par excellence. Ça veut dire « J'aimerais vous brancher ou j'aimerais un peu vous conduire à l'éclat ».
Et c'était le slogan de Timothy Leary, voilà. Le pape du LSD.
Voilà, Timothy Leary qui se
décrochez, présentera... Décrochez et branchez-vous, quoi, c'était... Ça.
Timothy Leary, donc, qui va se présenter à des élections aux États-Unis. L'une des chansons des Beatles, d'ailleurs, sera inspirée, on en parlera tout à l'heure, c'est comme Together, d'un slogan qu'avait Timothy Leary. Mais pour l'instant, trêve de commentaires durant assez bavardé. Voici donc un chef-d'œuvre que Paul a écrit une nuit, et il a mis beaucoup de temps à l'enregistrer, car il avait l'impression de recopier quelque chose qui existait déjà.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't.
Voilà, que Dieu préserve pour l'éternité Paul McCartney, qui a 80 ans aujourd'hui, Ringo et lui. Donc sont encore les deux seuls Beatles en vie. Vous savez que George Harrison est mort et que Lennon a été assassiné donc à New York en 1980. Chanson évidemment imprégnée de cette influence de la musique classique, du talent mélodique incroyable de Paul McCartney. Voici une autre chanson qui est une chanson complexe et qui raconte, qui est à la fois complexe et autobiographique. Nous sommes en 67, c'est Penny Lane et Yves va vous expliquer tout ça.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker.
Voilà la trompette qui intervient dans cette chanson, justement, un caractère autobiographique, Penny Lane. Yves, racontez-nous ça, nous sommes en 1967.
Alors, c'est une des chansons qui est enregistrée pendant les séances du fameux album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, mais qui sera réservée pour un 45 tours, avec de l'autre côté Strawberry Fields Forever, qui en fait...
Rien que ça.
Et l'autre côté de la même pièce, c'est-à-dire c'est la nostalgie de l'enfance à Liverpool, côté McCartney, on vient de l'entendre, Strawberry Fields Forever, côté Lennon. Alors Penny Lane, d'abord...
Lennon, il vient d'une famille totalement dysfonctionnelle, alors que McCartney, ils sont dans la modestie, mais le père a eu un petit orchestre de musique, le père de Paul McCartney, donc lui, très très tôt, il est familiarisé justement avec cette idée de la musique.
Enfin, si je peux me permettre, le point commun, c'est que les mères sont mortes. Donc,
ouais.
Et vous pouvez entendre beaucoup de choses dans la musique des Beatles, Julia, Your Mother Should Know, où la mère absente est quand même une clé.
Et Let It Be.
Et Let It Be.
Donc, vous disiez, mon cher Yves, on est très sérieux, parce que finalement, les Beatles, on a l'impression que c'est l'histoire de l'Europe occidentale projetée vers le monde entier.
Donc, Penny Lane, c'est effectivement une chanson nostalgique, avec... même un certain hubris hein, de Paul McCartney qui raconte, et il sait d'ailleurs, c'est son talent de parolier, que de savoir raconter la vie quotidienne, mais avec plus que de la nostalgie, avec de la manière quasi sociologique hein, de raconter la vie des petits Anglais d'après-guerre. Mm-hmm. Penny Lane, donc c'est une place, hein, un carrefour d'un quartier de Liverpool proche de là où habitaient en tous les cas Lennon et McCartney. Et donc il raconte la vie, il raconte le coiffeur, le camion de pompiers qui passe. On entend d'ailleurs hein, la sirène des pompiers à un moment dans la chanson.
Collage des mots, disait tout à l'heure Marc, collage des sons aussi, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque.
Exactement. Et puis c'est un morceau surtout qui est quelque chose qu'on a totalement perdu depuis les Beatles, c'est la luminosité incroyable qu'il y a dans ce morceau, dans beaucoup de morceaux de McCartney, pas exclusivement, mais c'est sa signature en tous les cas mélodique. C'est quelque chose qui a disparu. Il y a plus de lumière dans la musique d'aujourd'hui. C'est effectivement cette espèce d'euphorie de 1966-1967. Vous savez, 1966, c'est le Swinging London à son maximum. C'est l'Angleterre qui remporte pour la première fois la Coupe du Monde de football à Wembley.
Ah, je savais qu'avec Yves, nous n'allions pas y couper. Un petit coup de ballon rond.
Il y a aussi, là encore, du mélange, parce que le solo de trompette, mm-hmm. c'est George Martin qui va chercher un trompettiste classique, qui est une sorte de Maurice André britannique.
La trompette piccolo.
La trompette piccolo qui va improviser, oui. Et puis en effet, cette dimension de nostalgie. Et alors, il y a un autre musicien, on peut le dire au passage, qui va être un peu comme ça. C'est Ray Davies des Kinks, qui sont aussi un groupe qui est un chroniqueur, comme ça, de la vie quotidienne britannique.
Plus acide.
Oui, plus sardonique ou critique.
Nous allons maintenant écouter Tomorrow Never Knows avec une version enchaînée, donc, de world music, comme on dit, bien que ce mot soit un peu épouvantable, de Tushulela Raman. C'est en 2016, et puis évidemment, nous écouterons l'original de l'album Revolver en 1966.
Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying, it is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void. It is shining.
L'Orient pointe le bout de son nez, mon cher Marc.
Ben oui, surtout la culture psychédélique. On daterait de janvier 66, la première prise de LSD par John Lennon. C'est l'époque où il y a Aldous Huxley, où Timothy Leary, qui est le pape du LSD, prône ce qu'on appelait à l'époque l'expansion du champ de conscience.
Vous savez que nous sommes sur Radio Classique, vous êtes
absolument. Parfait, et on va faire même un peu d'anglais.
Le LSD était légal à l'époque.
Oui, et d'ailleurs, invention suisse, hein, laboratoire Hoffman. The meaning of within, le sens, la signification de l'intérieur. Bon, c'est l'invention du rock psychédélique. Alors, Lennon a dit qu'il aurait voulu faire entendre le Dalai Lama psalmodiant en haut d'une montagne. Alors après, il y a une chimie musicale, ça c'est très important, parce que c'est vraiment le travail de laboratoire. Il y a une sorte de batterie hypnotique de Ringo Starr avec des tablas, donc instrument oriental. Il y a une basse qui est très très pulsée. Et puis surtout, il y a des bandes qui sont des boucles de bandes passées à l'envers, des bandes magnétiques, inspirées de la musique concrète. Pierre Henry, par exemple, faisait, ou Pierre Schaeffer faisait ça en France. Et puis alors, la voix de Lennon est filtrée, elle est passée à travers le pavillon d'une cabine Leslie. Un Leslie, c'était un ampli rotatif qui faisait comme ça, qui distordait, qui déformait la voix. Plus, dernière chose, ce qu'on appelle le double tracking, c'est-à-dire la voix de Lennon est dupliquée deux fois, comme en écho. Tout ça avec des quatre pistes à l'époque. Hein. Et c'est George Martin et Geoff Emerick qui est l'ingénieur. Et alors, sur une piste, il recopiait ce qui avait été... il y avait au fond deux pistes sur une, puis deux pistes sur une. Bon, mais tout ça part d'assez peu, finalement, et ça va ouvrir un continent musical qui va vers le rock psychédélique, la new wave et la techno. Juste un mot de Sushila Raman, qu'on a entendu. Donc, elle est en 73, elle a 50 ans, elle est née en Grande-Bretagne de parents qui viennent d'Inde du Sud. Elle commence avec des chants dévotionnels tamouls, et puis elle se met à mixer ça avec...
Si vous allez avec parler tamoul un dimanche après-midi, eh bien, ça n'a aucun rapport avec une hostilité à l'égard de la culture tamoul.
Oui, méfiez-vous. Donc elle mixe ça avec un esprit psychédélique. Donc, il y a des reprises de Lennon, de Dylan, de Nirvana, et en 2016, ce Tomorrow Never Knows, qui, comme vous l'avez dit, s'apparente à ce qu'on a appelé, justement, proprement, la musique New Age.
Voilà. En un mot, je voulais simplement ajouter que les covers des Beatles, parce que c'est aussi ça l'intérêt de cette version dite de world music, les covers de Beatles vont être innombrables dans le monde entier. Yesterday a été enregistré par la plupart des grandes stars du monde, et Something d'Harrison, notamment par Sinatra.
Oui,
et par...
qui l'annonçait comme étant Lennon McCartney. Il s'est toujours trompé. Il disait c'est une chanson de Lennon McCartney. Pas du tout, c'était une chanson de George Harrison.
Et même Ray Charles l'a enregistré. Nous nous retrouvons dans un instant avec Yves Bigot et Marc Lambron, ainsi bien évidemment que Josiane Savigno. Nous parlons aujourd'hui de la complexité de la musique des Beatles.
Découvrez À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanac. Au cœur du Pays Basque, une femme disparaît sans laisser de traces. 20 ans plus tard, l'enquête est relancée. Mais réveiller les secrets du passé n'est jamais sans conséquences. À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanac, en librairie chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
Un sentiment d'ailleurs qui transcende le temps. Au Théâtre des Champs-Élysées, l'immense Marie-Nicole Lemieux interprète pour la première fois le chant de la terre de Malheur aux côtés du flamboyant ténor Andrew Staples. Les Indes galantes de Rameau complètent un programme d'exception joué sur instruments d'époque par Les Siècles, mené par le charismatique François-Xavier Roth. Les Siècles, Rameau, Malheur. Lundi 25 mars, au Théâtre des Champs-Élysées. Réservation sur théâtrechampselysees.fr.
Pendant 4 jours, la Paris Print Fair, salon international dédié au monde de l'estampe, revient pour une nouvelle édition à Paris. 20 exposants internationaux dévoileront leurs plus belles gravures, anciennes, modernes, japonaises et contemporaines. La Paris Print Fair se tiendra du 21 au 24 mars au couvent des Cordeliers, 15 rue de l'École de médecine, Paris 6e. Plus d'informations sur parisprintfair.fr. De Bach aux Sherman Brothers, œuvre phare et univers musicaux inattendus, dialogue sous les doigts de Florian Noack. Ces transcriptions et variations nous font découvrir un monde de liberté, de raffinement et de plaisir défendu. I Wanna Be Like You par Florian Noack. Une nouveauté, la Dolce Volta.
Bach exprime l'indicible, le sacré. L'intensité de la passion selon Saint Jean par le Riaskommerchor et l'Académie Furale de Musique Berlin. Et de l'abîme à la lumière, les plus grands motets et cantates de Bach par Insula Orchestra et le chœur Accentus sous la direction de Laurence Equilbert. Bach à l'auditorium Patrick de Vétian de la scène musicale les 26, 28 et 29 mars. Réservation sur lascenemusicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.
Bah moi, ma préférence allait à John, mais j'aimais bien Paul aussi. Ouais. Ils étaient tous très sympas.
19h, 20h.
J'ai un copain qui m'a dit, il y a un groupe qui vient de sortir qui s'appelle les Béates. Véridique, hein.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, Sylvie Vartan, donc, qui a partagé l'affiche avec les Beatles à l'époque, justement, de Can't Buy Me Love. Ils étaient à Paris. Et Laurent Voulzy. L'impression, évidemment, sur le moment, c'est de ces quatre jeunes gens gays, qui tournent dans des films, qui font de la musique, qui rencontrent un succès phénoménal et qui, en même temps, on le découvre année après année, sont d'une complexité et sur le plan de la composition, musicale et sur le plan de l'écriture incroyable. Ça date de 67. On a l'impression aujourd'hui que personne ne pourrait faire mieux. Voilà, vous avez entendu le sitar et évidemment un nombre considérable d'ajouts musicaux à la mélodie d'origine. Nous sommes en 1967, Yves. Et c'est un morceau, lui aussi, qui a joué un rôle phénoménal dans l'histoire des Beatles, parce que non seulement on est dans la complexité, mais en plus ils en vendent, pour parler d'une manière vulgaire, des wagons. Parce qu'il y a toujours cette espèce de phénomène avec eux qui est incroyable, c'est que, à chaque fois qu'ils avancent, les gens les suivent. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui a un peu tétanisé le monde. On pouvait croire que, comme c'était beaucoup plus complexe que le début, une partie du public, des jeunes filles ou des jeunes garçons, allait arrêter. Pas du tout.
Vous avez dit l'essentiel, Guillaume. D'abord, c'est une période bénie dans l'histoire de la musique ou de la chanson, quand ce qui se fait de mieux est numéro un. C'est très rare, c'est arrivé pendant les années 60, c'est arrivé grâce aux Beatles et à quelques autres qui les suivaient. Par ailleurs, ce que les Beatles ont apporté finalement de plus, ils ont apporté énormément de choses. Déjà, ils étaient les quatre meilleurs amis que le monde ait jamais connus. Mais par ailleurs, c'est eux qui ont introduit la culture dans le rock et derrière le rock dans la chanson. Dans ce morceau, qui est vraiment typique de John Lennon et de son expression, il y a à la fois la nostalgie de l'enfance, il y a un côté extrêmement onirique qui, voilà, est
consubstantiel de son écriture. Il écrit beaucoup sur les rêves, sur ses rêves, sur la manière y compris de rêver éveillé. C'est l'imagination, en fait, ce dont il parle. Et puis, il y a aussi la recherche identitaire. C'est de se poser toujours cette question. Il la pose dans M. de Walrus, il la pose dans de nombreuses autres chansons. C'est qui suis-je et pourquoi suis-je là ?
Voilà autre révolution apportée par les Beatles, la nature même des pochettes des albums, puisqu'il s'agit maintenant du double blanc. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la musique. C'est un album où il n'y a strictement rien écrit, c'est blanc et écrit The Beatles seulement. Un titre qu'a choisi Marc, Honey Pie.
She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me.
Marc, c'est Honey Pie.
Alors, nous sommes début octobre 68, c'est pour l'album Double Blanc. McCartney est au studio Trident. C'était pas toujours Abbey Road. Alors, c'est exactement ce que Lennon n'aimait pas chez McCartney, et notamment cette chanson, c'est-à-dire le pastiche. Pourquoi ? Parce que McCartney a entendu dans son enfance des musiques, on appelle ça le vaudeville, l'opérette, la chanson de charme, notamment Al Bolli, qui était le Bing Crosby britannique, et donc il fait un à la manière de. Vous avez entendu, notamment à un moment, il y a une sorte de 78 tours qui est incorporé. Il y a un vibrato un peu comme ça pour chanteur de salon de thé. Il va le refaire d'ailleurs. Il y a des chansons qui s'intitulent Your Mother Should Know ou When I'm 54. En général, avec des arrangements de cuivre de George Martin qui maîtrise très bien cet archaïsme tempéré. Alors, tout ça, c'est le côté mélodiste de McCartney. En 2012, d'ailleurs, en solo, il va réaliser un album qui s'appelle Kisses on the Bottom, qui ne sont que des reprises de standards comme ça, de musique des années 30 ou 40. Et évidemment, ça a éclipsé durablement son côté rock. Parce que sur le même album de Double Blanc, il y a une chanson intitulée Helter Skelter, que nous n'allons pas entendre, qui est comme l'invention, c'est la pierre de touche du hard rock. Donc McCartney, il est polyforme, polymorphe, et il est là aussi.
Voici maintenant un des chefs-d'œuvre à la fois de la pop musique, mais en même temps d'inspiration du blues. Nous sommes toujours sur l'album Double Blanc. Et nous avons eu la chance avec Yves Bigot d'être au Royal Albert Hall à Londres, quand peut-être une trentaine de musiciens Yves sur scène, toute l'aristocratie du rock britannique a repris. McCartney était au piano. Cette chanson d'Harrison, il y avait Danny Harrison, le fils qui était là évidemment, et son épouse, j'allais dire sa dernière épouse, parce que c'est vrai qu'Harrison était le garçon discret, comme le disait Marc. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aimait beaucoup les dames. While My Guitar Gently Weeps est un chef-d'œuvre absolu.
You all see the love that's sleeping.
Voilà Londres, Royal Albert Hall, c'était absolument phénoménal, non pas pour évoquer les souvenirs, mais il va vous expliquer tout ça dans un instant, mais vous aviez au piano Gary Brooker, Billy Preston, trois batteurs, Klaus Voormann qui a été un moment, donc le bassiste, ils étaient tous là pour rendre hommage, Tom Petty
et
qui a joué.
Shankar, la fille, en ouverture.
Voilà, en ouverture, et évidemment les Monty Python qui ont fait un petit numéro assez comique, dont je vous parlerai à la fin. Cette chanson, c'est évidemment une chanson qui a toujours soulevé les foules pendant tous les concerts, parce qu'à la fois c'est une mélodie extraordinaire, en même temps il y a une sorte de swing lourd, et puis évidemment pour les guitaristes c'est un bonheur absolu, ça a été repris 14 fois par Clapton, par Prince, par tous ceux qui aiment évidemment jouer les solos de guitare sur des chansons qui sont des classiques.
Vous l'avez dit Guillaume, hein, ce Concert for George auquel nous avons eu la chance d'assister ensemble, donc à la mémoire de George Harrison, c'était 2 ans après sa disparition, c'est Eric Clapton qui l'a organisé, qui a fait répéter les musiciens. Parfois, les concerts hommages comme ça, c'est fait un peu à la va-vite, etc. Là, ils ont répété pendant quasiment 3 semaines sous la direction d'Eric Clapton pour que tout soit parfait. Eric Clapton, c'est le premier musicien extérieur, qui soit pas un musicien d'orchestre, mais qui soit un soliste, à être intervenu sur un disque des Beatles, et à la demande de son ami George Harrison, qui était pourtant pas un manchot non plus à la guitare, mais qui a souhaité que ça soit Clapton qui vienne jouer sur ce morceau. Voilà, dont c'était le surnom, hein. Dieu, c'était écrit sur des palissades dans Londres quand il était guitariste des Yardbirds, parce qu'il était considéré comme le meilleur guitariste anglais du moment. Et While My Guitar Gently Weeps, c'est effectivement une mélodie et une interprétation remarquable. C'est aussi l'expression par George Harrison de la convergence entre sa philosophie hindouiste et la nature même du blues. Mmh. Il regarde tourner le monde pendant que sa guitare pleure, ça résume les deux.
Vers la fin justement du groupe qui a duré 10 années, il semblerait, en tout cas c'est ce que racontent les 2 livres que je vous ai présentés tout à l'heure, que finalement Paul et John Lennon aient une sorte de culpabilité à l'égard d'Harrison, en disant au fond on aurait dû le laisser plus souvent écrire des chansons, participer plus souvent à cette création parce qu'il avait un talent formidable, et c'est une sorte de regret qu'ils expriment au moment où tout le monde s'en va. C'est ça qui est assez particulier, Marc.
On voit par exemple sur le film, sur les sessions de Let It Be, qui quitte à un moment le groupe. Hein, et ils attendent qu'ils reviennent. Il est quand même exaspéré. Il a ce flot de créativité, mais comme l'a dit tout à l'heure, qui va se déverser essentiellement dans son premier album solo.
Because Abbey Road, 1969. Donc nous passons du double blanc à Abbey Road. C'est Marc qui va vous en parler dans un instant.
is new. Love is all, love is you. Because the sky is blue, it makes me cry.
Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu Because. Cette chanson est absolument magnifique. On a l'impression parfois d'être dans une église, quelque part, justement, assistant à un rite anglican en Grande-Bretagne. Because.
Because, bon, c'est l'album testamentaire, c'est Abbey Road, et c'est Lennon, qui entend Yoko Ono, qui joue au piano la sonate au clair de lune de Beethoven, et dont il va reprendre certains motifs inversés. Ils entrent en studio en plein été, entre le 1er et le 5 août 1969, pour cette chanson, et il n'y a pas de batterie, vous avez entendu, mais il y a trois voix. C'est un dernier unisson, Lennon, McCartney, Harrison, à un moment où ils travaillent sur des 8 pistes maintenant. Et en fait, avec des duplications, on a 9 voix. Et ils y ajoutent des claviers, c'est-à-dire clavecin, guitare et Moog, le synthétiseur donc qu'ils commencent à utiliser sur Abbey Road. Sachant que c'est écrit par un Lennon en pleine phase héroïnomane, et que 50 jours plus tard, il va enregistrer une chanson de manque terrible qui s'intitule Cold Turkey. Mais là, alors, ce que nous avons entendu, c'est la version dépouillée. C'est-à-dire qu'on a enlevé les arrangements, clavecin, guitare et Moog. Et du coup, c'est absolument céleste. Ça reboucle avec la musique vocale de la Renaissance anglaise, des musiciens comme Tallis ou comme Byrd, du XVIe siècle, et au fond, il y avait aussi, remontant chez Lennon, quelque chose qui venait de la Renaissance, de son pays, et des époques royales, du Sun King, parce qu'il y a aussi un roi sur Abbey Road qui est le soleil.
Et je reviens au commerce, mon cher Marc, parce que ce qui est incroyable, c'est que justement, cet album qui comprend Come Together, Something, Maxwell Silverhammer, Oh Darling, Octopus Garden, I Want You, qui est le dernier titre qu'ils ont enregistré tous les quatre ensemble, il y a Come the Sun, Because, etc., etc., et qui se termine par Carrie That Way, The End of Majesty, eh bien cet album a été, comme depuis le début de leur carrière, numéro 1 en Grande-Bretagne, puis immédiatement numéro 1 aux États-Unis, et ce, pendant des semaines et des semaines.
Voici juste une chose, c'est ce que disait tout à l'heure Yves, c'est-à-dire que on retrouve, c'est le moment où le groupe se débande, mais on va retrouver l'aspect collage, c'est-à-dire que toute la face B qui est magnifique, ce sont des bribes de chansons, et c'est McCartney qui l'a
à
diriger et réarranger tout cela pour que ça fasse un ensemble, là encore, par collage unifié.
Première surprise, Leonard Bernstein, qui chante And I Love Her.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her.
Il chante comme une casserole, mais en tout cas, c'est magnifique.
Il a ce qu'on appelle une voix de compositeur.
C'est juste pour dire que Bernstein, qui admirait les qualités de mélodiste de McCartney, l'a intégré dans ses masterclass. Et c'est assez important parce que c'est un passeur, et c'est une façon aussi pour la musique des Beatles d'avoir atteint un public qui était celui de la musique classique.
Nous allons écouter maintenant on a expliqué la façon dont ce succès s'est développé, mais il s'est aussi développé par la reprise qui a été faite par de très nombreux artistes. Je parlais de Sinatra, je parlais évidemment de Ray Charles. Et maintenant, il s'agit de Ike et Tina Turner. Come Together a été donc composé par John à un moment justement où Timothy Leary est venu le voir, car il était candidat donc à une élection en Californie, et il voulait absolument avoir une chanson qui lui permette d'être une sorte d'hymne qui ouvrait les meetings. Et puis tout ça a tourné court parce qu'il y avait tellement de problèmes de marijuana que la campagne de Timothy Leary a été arrêtée. Ce que John avait commencé, il a dit, bon, bah, finalement, autant le donner aux Beatles. Et puis de Beatles en Ike et Tina Turner, on est arrivé à une version où l'orchestre, vous allez l'entendre, joue très bien, car Ike est un très bon musicien, même si c'était à titre personnel un salopard total. Mais quand sa femme commence à chanter, c'est une explosion.
Do what he please.
Il ne peut pas s'empêcher de nous faire une petite remarque sur The Come Together d'Ike et Tina Turner.
Oui, sur l'esprit des années 60, parce que, comme vous l'avez dit, c'était au départ un slogan politique, mais qui n'a pas été utilisé. Mais c'est, Come Together, ça veut dire unissons-nous. Mm-hmm. Mais ça veut aussi dire jouissons en même temps.
Mm-hmm. C'était l'époque.
Et donc, il y a les deux. Il y a la politique et le sexe, en somme.
Nous sommes en 2010. Vous savez que les Américains ont le sens de l'hommage depuis des années. Donc, la famille Kennedy ou Kennedy Center Honors. Donc, rend hommage à tous les grands créateurs américains et mondiaux dans tous les domaines. Il ne s'agit pas simplement de la pop musique, mais dans le domaine de la musique classique, dans le domaine du blues, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la télévision, et ça donne toujours des cérémonies exceptionnelles. À mon avis, bien mieux que les Oscars, avec le tout Amérique qui est dans la salle du Kennedy Center et qui rend hommage donc à quelqu'un. Ce soir-là, nous sommes en 2010, si ma mémoire est bonne, au mois de décembre. Celui à qui on rend hommage, il s'agit de Paul McCartney. Oh, Paul McCartney a eu une idée assez bizarre, puisque Marc vous l'expliquait tout à l'heure sur la fin justement d'Abbey Road, il a téléphoné à Steven Tyler d'Aerosmith qui ne s'y attendait absolument pas, en lui demandant de chanter justement cet enchaînement des quatre dernières chansons d'Abbey Road qu'il a composé avec sa bande. Et donc sur scène arrive un type qui ne ressemble pas vraiment aux Beatles, et encore moins aux gens qui sont dans la salle en smoking, Steven Tyler, avec un menton long, on dirait sorti d'un film de Sergio Leone, le cheveu dans le vent, et vous pouvez...
Il ressemble plutôt à Mick Jagger, d'ailleurs.
Voilà, absolument. Il vit d'ailleurs aujourd'hui du côté d'Hawaï, et sa performance a été incroyablement appréciée par Paul McCartney, qui par moments est au bord des larmes.
Once there was a way, get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep but it out, do not cry. And now we'll sing a lullaby.
Et tout le Kennedy Center, la salle, tous ces gens en smoking, le président des États-Unis, Barack Obama, son épouse et toutes les stars américaines reprennent donc derrière Steven Tyler cet hommage à Paul McCartney qui est là avec sa compagne, qu'il prend dans les bras, elle est derrière lui. Et lui est au bord des larmes pour cet hommage qui est une réussite absolue que vous allez retrouver bien évidemment sur Internet sans le moindre problème. Yves, merci mille fois. Marc, merci mille fois. Je sais, mon cher Yves, que nous sommes dimanche, alors on a enregistré cette émission un peu avant. Vous avez un conseil d'administration, parce que c'est l'avantage de Bigot, si vous voulez, c'est qu'à la fois, il dirige des chaînes et en même temps, il est critique de rock et en même temps, il écrit des dictionnaire sur le rock'n'roll break. C'est une sorte de Lambron 2, car nous avons Lambron 1, Radio Classique.
Abbey Road 2, c'est ça?
Lambron 1, Radio Classique, qui passe évidemment de l'Académie française au LSD. C'est bon à part.
19h-20h.
Paris est magique. Oui. Oui.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, vous avez reconnu la voix de Paul McCartney. Et avec vous, Josiane, nous allons retrouver donc en écoutant une version piano et orchestre symphonique de Michel, la fameuse chanson qui est dédiée à Michel Phillips, donc la ravissante chanteuse des mamas et des papas, un livre qui s'appelle 1964 dans le tourbillon de la Beatlemania. C'est un livre de photos qui retrace évidemment cette période folle qu'on a évoquée tout à l'heure et qui est commentée par Paul McCartney.
Ouais, de photos et de textes, beaucoup de textes. En fait, c'est chez Buchet Chastel, c'est un petit investissement à 59€ en papier et 42 en numérique, mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment une mine. Alors, vous avez parlé des photos, mais il y a quand même beaucoup de textes. Il y a une préface d'Antoine de Caunes, il y a un avant-propos de Nicolas Cullinan qui est directeur de la National Gallery of Portrait, et c'est là que McCartney a déposé ses archives. Et puis, il y a un texte, un long texte qui s'appelle Le Beatleland, le monde en 1964, avec cette phrase magnifique de Aaron Copland. Si vous voulez savoir ce qu'ont été les années 1960, écoutez les Beatles. Alors, McCartney, comme s'il ouvrait un opéra, c'est un peu son genre, a fait une ouverture, un long texte, je vous en dis un petit morceau. Je me rappelais vaguement avoir pris des photos dans les années 1960. Impossible tout d'abord de retrouver l'année exacte. Mais une chose était sûre, nous étions très jeunes. C'était pile à l'époque où les Beatles prenaient leur envol. Je n'ai jamais essayé d'exhumer cette série de clichés, je veux dire de façon consciente, mais je me suis toujours dit qu'elle finirait par ressurgir à un moment opportun. Dans la vie, un peu de hasard entre souvent en ligne de compte. Ensuite, il explique comment ça a ressurgi. Toute personne qui découvre une relique ou un trésor de famille est aussitôt submergée de souvenirs et d'émotions qui provoquent des associations enfouies dans la brume du temps. Alors, c'est très beau. En plus d'être un très bon mélodiste, c'est un très bon photographe.
Et un très bon écrivain.
Et on se promène de Liverpool, Londres, Paris. Alors, Paris, il y a l'Olympia, vous en avez parlé tout à l'heure. On voit la devanture de l'Olympia, Sylvie Vartan, les Beatles.
Il y est venu souvent depuis.
Oui, oui. Et puis, il y a des séances photos assez rigolotes. Les Beatles avec un képi de gendarme de l'époque. Il y avait le chapeau de Napoléon. À New York, c'est vraiment... Alors là, il y a des effets de foule absolument incroyables. Donc, très bonne photo. Très beau texte. Et au fond, c'est comme une sorte de journal intime en photo, je dirais. Et souvent, ils sont un peu mélancoliques sur les photos. Et à New York, il y a aussi la police montée qui essaie de contenir la foule. Enfin, vraiment, il a l'œil. Je voudrais finir, bien sûr, sur une phrase de McCartney. Contempler la puissance, contempler l'amour, contempler la magie de ce que nous avons vécu, le tout capturé sur pellicule, ça vous comble un homme, c'est ce qui rend la vie si belle.
C'est pour ça que tout à l'heure je disais, pourvu que Dieu lui accorde, contrairement à tout le monde. Après tout, c'est une injustice que je revendique. Une vie qui soit la plus longue possible. Paul McCartney, ça paraît à peine croyable, a aujourd'hui 80 ans. Et il est encore en tournée, même si sa voix, c'est semble-t-il, légèrement donc altéré.
Ce livre est toujours écrire et faire des photos.
Voilà, ce livre est absolument magnifique. Je vous le conseille. Il est donc publié aux éditions, comme le disait donc Josiane, Buchet-Chastel. Nous avons parlé de la complexité de la musique des Beatles. C'était notre plaisir. J'espère que c'était aussi le vôtre. Bonne journée, bon dimanche. C'est la fin du dimanche et profitez-en.